Bonjour. Oui, aujourd'hui, nous allons parler d'une religieuse, sœur Madeleine Avolpato, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, une très belle figure qui s'est donnée pour l'unité des chrétiens et qui est servante de Dieu. Hier a commencé la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, qui chaque année, dans l'hémisphère nord en tout cas, a lieu du 18 au 25 janvier. Et chaque année, il y a une congrégation ou un mouvement religieux qui est choisi. Cette année, c'est la communauté monastique de Grandchamp en Suisse et qui a pris pour thème « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance ». Alors, le but de ce propos, ce n'est pas de parler de l'écuménisme, hein, c'est pas l'objet, mais de présenter l'offrande de sa vie qu'a fait une servante de Dieu pour l'unité des chrétiens. Et cela parce que le don de soi, le don de sa vie, c'est probablement la plus féconde des prières et celle qui porte sûrement du fruit en abondance, comme c'est le thème de cette année. Dans l'Église catholique, il y a trois servants de Dieu, saints ou vénérables, qui se sont donnés pour l'unité des chrétiens. Enfin, il y en a d'autres, mais j'en connais trois. Donc, je citerai saint Léopold Mandic, qui était né en Dalmatie, donc à la limite entre le catholicisme et l'orthodoxie, et qui s'est donné pour le rapprochement avec les frères d'Orient. Il y a une bienheureuse, Maria Gabriella Sagedou, qui est une cistercienne. Et enfin, une servante de Dieu, Madeleine Avolpato, dont on va parler aujourd'hui. Tous sont morts entre les années 39 et 46. Hein. Voilà, alors vous avez été à Lourdes, vous avez sûrement vu le moulin de Bolly et la chapelle de l'Adoration, et à ce moment-là, vu des religieuses avec une tunique beige et un voile blanc. Ce sont des filles de l'Église. C'est une congrégation religieuse italienne qui a été fondée par Marie Oliva Bonaldo, et il y a trois belles figures dans cette congrégation, donc la fondatrice, Marie Oliva Bonaldo, qui est vénérable et qui a instauré l'adoration à Lourdes, une autre qui s'appelle Olga Guglielmo, qui est vénérable aussi, et enfin la servante de Dieu, Madeleine Avolpato. Donc c'est un institut religieux de droit pontifical, hein. Elles sont implantées à Rome où il y a la maison mère, à Lourdes, Fatima, Tarse, et puis dans d'autres villes italiennes, en Inde, en Amérique du Sud, je pense à la Bolivie et le Brésil. Un petit point, elles sont à Rome aussi, à Via Lata, là où il y avait la crypte, la prison où était saint Paul. Alors, le charisme de cette congrégation, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Marie Oliva Bonaldo. La Sainte Église n'est pas connue, la Sainte Église n'est pas aimée, parce que l'amour de celui qui l'a généré dans la douleur n'est pas connu, n'est pas aimé. Donc le charisme, je crois, des filles de l'Église, c'est connaître et aimer l'Église, la faire connaître et aimer, prier et travailler et souffrir pour elle. L'adoration eucharistique, bien sûr, parce que c'est Marie Oliva qui, en 1958, pour le centenaire des apparitions à Lourdes, a instauré, a créé l'adoration eucharistique et enfin l'unité des chrétiens. Alors maintenant, je pense qu'on va pouvoir parler avec sœur Maria Teresa, qui est à Rome, via le Vatican, juste en face des musées du Vatican, qui a été, je crois, pendant deux mandats, mère générale de la congrégation, et qui est la postulatrice de la cause de béatification de Marie Oliva et de Madeleine, je crois, qui est très proche de nous, pour de nos groupes de prière de Padre Pio à Paris. Voilà. Sœur Maria Teresa, mi senti?
Sì, sì, pronto.
Buongiorno, sono Maria Teresa.
Buongiorno.
Ci puoi dire qualche cosa di Maddalena?
Sì. Maddalena è una giovane veneta nata in provincia di Treviso.
Maddalena è una jeune fille della provincia di Treviso, in Italia.
Sì. È nata in una famiglia di contadini, una famiglia povera, però ricca di fede.
Née dans une famille de paysans pauvres mais très riches de foi.
Et fin da piccola ha avuto un grande amore per Gesù e per Maria. Si è come bevuto proprio la devozione e si impegnava con tutte le sue forze a cercare il Signore, proprio ad amarlo.
Et toute petite, elle a eu une grande dévotion envers Jésus. Et toute petite, elle cherchait de toutes ses forces à l'aimer, à le servir.
Ogni giorno, dopo la prima comunione, andava alla messa e faceva 3 chilometri a piedi perché non poteva rinunciare a incontrarsi con l'amore di Gesù.
Dès qu'elle a fait sa première communion, tous les jours, elle faisait 3 kilomètres à pied pour aller à l'église, à la messe, car elle avait envie, besoin d'être près de Jésus.
Poi, mano a mano che cresceva, ha fatto la catechista, si impegnava con aveva più di 100 bambini nel catechismo ed era molto capace di istruirli.
Et ensuite, elle a fait le catéchisme, elle avait plus de 100 enfants à s'occuper et à former.
Sì. E sì. Appena possibile, lei desiderava essere religiosa, ma aveva l'ostacolo della famiglia, perché era troppo giovane.
Donc elle voulait être religieuse, mais elle avait un problème dans sa famille parce qu'elle était trop jeune.
Et finalmente, il papa l'a accontentata e lei è entrata come aspirante presso un istituto di Treviso.
Donc,
però
après,
no, per i motivi di salute non ha potuto rimanere.
Ensuite, son papa a accepté. Elle a été auprès de 2 congrégations religieuses, mais pour des raisons de santé, elle n'a pas pu rester.
Dopo si è curata, però ha ripreso la vita in parrocchia con molto impegno. Si impegnava, per esempio, a visitare gli ammalati, a cercare di aiutare in casa. Aiutava in campagna a fare i lavori e anche una sorella che era sarta. E quindi in una vita assolutamente normale.
Donc ensuite, elle a repris son activité dans la paroisse, à rendre service, à aider les gens autour, son activité paroissiale.
Sì, e praticamente lei cercava di far proprio una vita molto intima con il Signore. Faceva la Via Crucis, cercava di stare con Lui il più possibile.
E nel ensuite,
curava la sua malattia.
Elle était souffrante, mais elle cherchait toujours à rendre service, à obéir au Seigneur. Voilà.
Finalmente ha incontrato la nostra fondatrice
et
ha potuto realizzare il suo sogno.
Voilà. Et finalement, elle a rencontré la fondatrice de la congrégation, Maria Oliva Bonaldo, et là, elle a pu réaliser son rêve et être religieuse. Penso che continuerà adesso io.
Ed è entrata in consulato nel 1943.
Ouais.
Siamo in
elle
piena guerra mondiale, la seconda guerra mondiale.
C'est pendant
c'est
la
tanta
seconda guerra
povertà.
C'est en 1943, donc elle rentre comme novice dans cette congrégation. Sor Maria Teresa, proseguo adesso. Col tempo dunque.
Sì.
La ringrazio.
Sì.
Adesso maintenant elle est novice, donc je vais reprendre la suite de Sor Maria Teresa. Grazie Sor Maria Teresa.
Prego. Grazie a voi.
Voilà. Sì. Donc Sor Madeleine est novice. Elle est à Venise. Et un jour pour la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, la fondatrice explique à ses sœurs ce qu'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Donc, c'est le 18 janvier 1945. Et Madeleine est très touchée. Et elle attend que les autres novices et sœurs sortent. Et là, elle se jette aux genoux de la fondatrice en lui demandant « Est-ce que je peux m'offrir pour l'unité de l'Église ?» Sœur Marie Olive, elle lui dit, mais tu n'as pas compris. Bien sûr que tu peux le faire. Donc Madeleine s'offre. Et 8 jours après, le 25, donc dernier jour de la semaine de prière pour les chrétiens, Madeleine ne peut pas se lever. Elle reste au lit. Elle a une tuberculose des os, une maladie de Pott. Et elle est condamnée. C'est une condamnation pour la science, mais une victoire pour la charité. Alors, ce n'est pas parce qu'elle s'est offerte qu'elle était malade. La maladie était là, hein, mais elle s'est offerte. Et là, je vais lire le témoignage d'une sœur qui était à côté de Madeleine à Venise. C'est sœur Anna de la Madonna Grande. C'est très, très touchant. Voilà ce que dit cette sœur. Elle a écrit ce témoignage à la demande de la fondatrice pour que l'on soit au courant de ce qu'a vécu Madalena. Donc je vais lire ce texte qui est vraiment, vraiment touchant. J'ai été hospitalisé à l'hôpital du Lido de Venise, c'est en 1945. C'est là que j'ai connu Madalena. C'était par un matin froid de février vers midi. La sœur de service s'approcha de mon lit et me demanda de tenir compagnie à Madalena en attendant qu'on lui prépare un lit. C'était une petite sœur, jeune, souriante, blonde, avec deux yeux bleus, d'aspect rappelant une fleur, avec un visage rose, qui ne donnait aucun signe d'être malade. Elle avait seulement la tête un peu pliée vers la droite. Je ne l'avais jamais vue, jamais connue. Mais quand on se rencontre en certains endroits, dans un hôpital, hein, on fraternise tout de suite. J'ai compris tout de suite que Madalena était très réservée dans sa manière de parler. Elle a toujours parlé peu. Toutefois, quand elle parlait de sa congrégation, son visage semblait s'illuminer. Elle racontait qu'elles étaient très pauvres, mais qu'elles s'aimaient toutes. Que tous devaient s'aimer ainsi, disait-elle. Nous, qui sommes filles de l'Église, nous devons aimer tous nos frères, spécialement les chrétiens séparés. À l'époque, je ne savais pas ce que cette union des chrétiens voulait dire. Mais elle, qui vivait et souffrait pour eux, savait bien ce que cela voulait dire. Pendant quelques jours, je n'ai plus l'occasion de lui parler parce qu'elle était dans une petite pièce voisine. Je passais souvent devant sa porte, mais sans y entrer, parce que je la voyais toujours absorbée en prière, et entrer pour lui parler m'aurait semblé déranger son colloque avec le Seigneur. Un beau matin des premiers jours de mars, alors que le soleil commençait à réchauffer l'air, toutes les malades ressentirent le besoin de respirer enfin l'air pur et de se réchauffer sous ces rayons de soleil. On sortit Madeleine aussi. La veille, on l'avait plâtrée. On lui avait mis une minerve. Elle était plâtrée jusqu'à la tête. Il me semble encore la voir. Elle tremblait de tout son corps. Elle claquait des dents à cause du froid. Elle restait là au soleil pour sécher un peu le plâtre. Elle n'en pouvait plus. Elle était assise à côté de mon lit et de temps en temps un soupir lui échappait. Elle disait « Pour toi, Jésus, pour les âmes, pour les frères, pour l'Église. » Quelques jours après, la sœur de service me dit « Prie pour la petite sœur qui a une fièvre élevée. Elle me fait de la peine avec ce plâtre. Elle n'arrive même plus à respirer. » En cette époque de guerre, les médecins aussi étaient rares. On les voyait peu. On ne voyait le professeur qu'une fois par mois. Un jour, le professeur s'est approché de mon lit. J'entendis qu'il parlait de Madalena. Enlevant le plâtre de cette petite sœur, ce n'est pas humain de la laisser souffrir ainsi. Le docteur répondit, « Je ne le crois pas nécessaire. Laissons-le lui encore un peu, c'est une hystérique. Elle ne supporte rien. Lorsque ce sera vraiment nécessaire, on va lui enlever. » Elle resta ainsi de nombreux jours avec de la fièvre et des difficultés à respirer. Elle ne sait pas comment se mettre, enfermée dans cette caisse de plâtre. Mais Madalena était toujours calme et souriante. Elle disait « Le Seigneur le permet pour le bien des âmes ». Finalement, quand ils décidèrent à lui enlever, elle avait une pleurite très avancée qui, quand une exploration fut faite, renfermait du pus. Ils ne se manièrent pas beaucoup pour ça, car dans le service, on cherche uniquement les maladies osseuses. Du fait qu'elle avait tendance à se plier vers la droite, ils la mirent en tension, contrainte à l'immobilité avec du poids sur la tête et aux pieds. Elle pouvait bouger que les bras. Au-dessus d'elle, il y avait un petit miroir dont elle se servait pour voir qui s'approchait de son lit. Elle semblait un crucifix. Quand je la vis ainsi, je n'avais plus aucune parole. Je la regardais avec le cœur serré et en souriant, elle me dit « Tout pour l'Église, pour les frères. Tu sais, la souffrance acceptée avec amour a une grande valeur pour l'Église. » Elle me dit ces paroles ainsi, avec le cœur, convaincue que sa souffrance allait porter des fruits à l'Église, aux âmes. Je sortis de cette pièce sans lui avoir d'une parole. Les siennes m'avaient pénétré l'âme. Elle m'avait donné le programme, si je voulais le suivre. Elle m'accompagna avec son doux regard au travers du miroir et elle me salua de la main en souriant. Je n'allais pas souvent la trouver. Je m'arrêtais sur le pas de la porte et nous nous saluions ainsi. Elle avait continuellement des douleurs. Durant un an, je la vis souffrir comme un petit ange, calme, sans aucune lamentation. Madeleine souffrait, offrait, priait et se taisait. Elle souriait toujours, comme sa sainte Thérèse de l'enfant Jésus, qu'elle tenait suspendue au-dessus de son lit. Son mal empirait toujours et elle demeurait toujours plus immobile. Elle était toute une plaie. De son dos, lorsqu'on la soignait, sortait du pus, comme d'un robinet. Combien de douleurs lorsqu'on la bougeait. Sa plainte était accompagnée de prières jaculatoires. Pour toi, Jésus, pour les âmes. Quand les infirmières la soignaient, on ne pouvait pas passer devant sa chambre parce qu'il en sortait une odeur qu'on ne pouvait pas respirer. Et une fois les infirmières sorties, elles utilisaient des désinfectants. Madeleine comprenait sa condition et souffrait parce que les sœurs qui l'assistaient faisaient des efforts pour rester à proximité d'elle. Et cela aussi était pour elle une souffrance qui aggravait l'autre. Mais elle acceptait tout sans lamentation. Je m'arrêtais moins souvent, son état s'aggravait de plus en plus. Elle était réduite à un squelette. Seul un léger sourire affleurait quand elle me voyait et avec la main elle faisait un signe comme pour m'indiquer que c'était la volonté de Dieu. Je ne l'ai jamais vue triste ni impatiente. Madeleine n'a pas beaucoup parlé, mais elle nous a enseigné beaucoup. Elle nous a donné l'exemple de souffrir en silence. La dernière fois que je l'ai vue, elle était toute préparée comme pour une fête. Le patriarche de Venise, c'était le cardinal Piazza, devait venir pour recevoir ses vœux. Je pensais, qui peut imaginer la joie de Madeleine ? Ensuite, je ne la vis plus. En laissant cette terre, Madeleine nous a laissé à nous, malades, l'exemple de souffrir avec résignation tous les désagréments de la vie pour l'Église et pour le pape. L'odeur nauséabonde qui était restée dans sa chambre se faisait encore sentir une semaine après, et cela bien que sa chambre ait été maintenue fermée pendant tout ce temps avec des fleurs désinfectantes. Simplement cela, on pouvait penser combien Madeleine avait souffert. Voilà. Elle a été enterrée d'abord à Venise et quelques années après, lorsqu'on a retiré ses ossements, elle avait les os complètement percés, elle n'avait plus de vertèbres cervicales et la personne des pompes funèbres a dit combien elle a dû souffrir, cette sœur. Voilà, c'est une très belle figure, Madeleine, que j'aime beaucoup. Donc, sa tombe est maintenant à Zero Branco, à côté de Trévise. Et je crois que cette offrande de sa vie qu'a fait Madeleine est en plein dans le thème de cette année, hein, pour porter du fruit. Donner sa vie, c'est vraiment l'amour suprême. Jésus nous l'a dit. Voilà.
Voilà, merci beaucoup. Merci, Gino. Merci pour cette belle émission. Et donc, à très bientôt sur l'antenne de Radio Maria France.
À très bientôt. Merci.
Merci, au revoir.